Chapitre 8e. Troisième degré de la voix passive en foi nue. Le torrent, ainsi que nous l'avons dit, a souffert tous les bruits et les renversements imaginables. Il a été battu contre les rochers. Ce n'était que chute de rocher en rocher, mais il a toujours paru, et on ne l'a point vu perdre. Il commence ici à se perdre, de gouffre en gouffre. Il y avait encore un marché, quoique si précipité, si confus et si rompu. Mais ici il s'engouffre, avec une impétuosité encore plus forte dans des trous. On est longtemps sans le voir, puis on l'aperçoit un peu, plus par son bruit que par la vue. Mais il ne paraît que pour se précipiter de nouveau dans un gouffre plus profond. Il tombe d'abîme en abîme, de précipice en précipice, jusqu'à ce qu'enfin, il tombe dans l'abîme de la mer, où, perdant toute figure, il ne se retrouve plus jamais, étant devenu la mer même. L'âme, après bien des morts redoublées, expire enfin dans les bras de l'amour, mais elle n'aperçoit pas ses mêmes bras. Elle n'est pas plutôt expirée qu'elle perd tout acte de vie, pour simple et délicat qu'il fût. Tout désir, inclinaison, penchant, choix, répugnance et contrariété foncière. Plus elle s'approchait de la mort, plus elle s'affaiblissait, et sa vie, quoique languissante et agonisante, était encore vie, et il pouvait encore rester à l'âme quelque espérance, quoique sa mort fût inévitable. Mais ici, il n'y en a plus. Il faut que le torrent s'abîme, et qu'on ne l'aperçoive plus. Ô Dieu, qu'est-ce que ceci? Ce qui n'était que des précipices devient des abîmes. L'âme tombe avec entraînement dans un abîme de misère, d'où il n'y a nul jour de sortir. Au commencement, cet abîme est moindre, mais plus elle avance, plus elle en trouve de plus étranges, en sorte que c'est allé de mal en pis, car il est à remarquer que lorsque l'on commence un degré, il tient beaucoup de celui qui précède dans son commencement et dans sa fin. Il commence déjà beaucoup à se ressentir de celui qui doit suivre. Il faut aussi remarquer que chaque degré en renferme une infinité d'autres. L'homme, après sa mort, avant que d'être enseveli, est encore parmi les vivants. Il a encore figure d'homme, quoiqu'il fasse peur. Cette âme aussi, dans le commencement de ce degré, a encore quelques figures de ce qu'elle était autrefois. Il lui reste une certaine impression secrète et cachée de Dieu, comme il reste dans un corps mort une certaine chaleur qui s'éteint peu à peu. Cette âme se présente à l'oraison, à la prière, mais tout cela lui est bientôt ôté. Il faut perdre non seulement toute oraison, tout don de Dieu, mais Dieu même, à ce qu'il paraît, et ne le pas perdre pour 1, 2 ou 3 ans, mais pour toujours. Toute facilité au bien, toute vertu active lui sont ôtées. Elle reste nue et dépouillée de tout. Le monde qu'il estimait autrefois tant commence à en avoir peur. On lui rend encore certains devoirs de bienséance, mais ce n'est que pour l'ensevelir, la cacher dans la terre, et ne plus la voir. Il faut remarquer que ce n'est aucune faute visible qui produit le mépris des hommes, mais l'impuissance de pratiquer ce que l'on faisait autrefois avec tant de facilité. On passait les jours entiers à l'église et dans la visite des pauvres malades, souvent même contre son devoir. On ne peut plus faire ces choses. Elle sera bientôt, cette pauvre âme, dans un entier oubli. Peu à peu, elle perd tellement toute chose qu'elle est toute pauvre. Les créatures la jettent dans la terre, puis on n'y pense plus. Tout le monde jette de la terre dessus et on la foule aux pieds. Ô pauvre âme, il faut que tu te voies faire tout cela. Si un corps se voyait enterré, quelle peine n'aurait-il point? L'âme voit tout cela et le voit avec frayeur, sans cependant y pouvoir mettre ordre. Il faut se laisser ensevelir, couvrir de terre, et écrasé de toutes les créatures. C'est ici où sont les bonnes croix, et d'autant meilleures, que l'âme croit mieux les mériter. Elle commence aussi à avoir horreur d'elle-même. Dieu la rejette si loin qu'il paraît la vouloir abandonner pour toujours. Il faut, pauvre âme, que vous preniez patience et que vous demeuriez gisante dans le sépulcre. Elle y demeure en paix, quoique avec des horreurs terribles, parce qu'elle voit bien qu'il n'y a pas d'apparence d'en sortir et qu'il y faut demeurer pour toujours. Et aussi bien voit-elle que c'est le lieu qui lui est propre à présent, tout autre étant plus fâcheux pour elle. Elle fuit les créatures de bon cœur, parce qu'elle voit bien qu'il n'y a plus rien à faire pour elle, et qu'elles en ont de l'aversion. On parle mal d'elle, on ne la regarde plus que comme une charogne qui a perdu la vie, de la grâce, et qui n'est plus propre qu'à être enfoncée dans la terre. L'âme porte son abjection, mais hélas, que cet état est encore doux, et qu'il serait aisé de rester dans le sépulcre s'il ne fallait pas pourrir. Le vieil homme corrompt peu à peu. Autrefois c'était des faiblesses, des défaillances. Ici l'âme voit le fond de sa corruption qu'elle avait ignorée jusqu'alors, car il lui était impossible d'imaginer ce que c'est que l'amour-propre et la propriété. Tout ceci se passe dans l'intime de l'âme, sans que les sens y participent. Ô Dieu, quelle horreur pour cette âme de se voir ainsi pourrir. Toutes les peines, les mépris, les contradictions des créatures ne la touchent plus. Elle est même insensible à la privation du soleil de justice. Elle sait qu'il n'éclaire pas dans les tombeaux, mais de sentir sa corruption, c'est ce qu'elle ne peut souffrir. Ô Dieu, que ne souffrirait-elle pas plus tôt? C'est cependant un faire le faux. Il faut expérimenter jusqu'au fond ce que l'on est. Mais ce sont peut-être des péchés, Dieu a horreur de moi. Mais que faire? Il faut souffrir, il n'y a point de remède. Mais encore, si je pourrissais sans cette revue de Dieu, je serais contente. Ce qui me fait peine est le mal de cœur que je lui fais. Mais, pauvre désolé, que ferez-vous? Il vous doit suffire de n'aimer pas la corruption, mais de la porter. Encore ne savez-vous pas, si vous ne la voulez pas, vous ne sauriez en juger vous-même. Les autres en jugent par la peine qu'elle vous cause. Cette âme ainsi dans la corruption est si pleine d'horreur d'elle-même qu'elle ne peut se souffrir. La peine de souffrir sa propre puanteur est si forte qu'elle n'a plus de peine de tout ce qu'on lui pourrait faire au dehors. Rien ne la touche plus, elle se voit digne de tout mépris. Les autres ne la voient plus qu'avec horreur, mais cela ne lui fait point de peine. Le mal de cœur qu'elle sent et sa propre puanteur lui faisaient voir ce que l'on a raison. Et si elle voit des âmes vivantes en Dieu, elle se croit indigne d'en approcher. Elle s'enfonce dans la pourriture comme dans le lieu qui lui est propre. Elle n'a pas de peine que Dieu la rebute, car elle voit si clair le mérité que rien plus. Elle est même ravie qu'il ne la regarde plus, qu'il la laisse dans la pourriture, et qu'il donne aux autres toutes ses grâces, que les autres soient l'objet de ses actions, qu'elle ne cause que de l'horreur. Mais ce à quoi elle ne se peut résoudre, c'est que la mauvaise odeur de sa corruption monte jusqu'à Dieu. Elle ne voudrait pas pécher. N'importe, dit cette âme, que je pourrisse, que je sois le jouet de toutes les créatures, que je sois dans le fond de l'enfer avec les démons, pourvu que je ne pèche pas. Elle ne pense plus à aimer ou à ne pas aimer. Elle s'en croit incapable. Il n'y a plus d'amour pour elle. Elle est devenue bien pis que dans le pur naturel, puisqu'elle est dans la corruption ordinaire, au corps privé de vie. Enfin, peut-être que cette corruption durera peu. Hélas, c'est tout le contraire. Elle durera plusieurs années et ira toujours en augmentant, si ce n'est sur la fin que la pourriture devient poussière et que ce qui est cendre redevient cendre. Ce pauvre torrent va comme un fou, d'abîme en abîme, de précipice en précipice. Cette âme va de pourriture en pourriture. tous ses membres sont attaqués presque en même temps. Il n'y a plus rien pour elle, plus de règlement, plus d'austérité. Il lui semble que tous les sens et toutes les puissances sont dans la confusion. Pauvre âme, que ferez-vous dans cet état? Il vous faut résoudre à être éternellement la pâture des vers. Votre propre conscience vous reproche l'état où vous êtes tombé. Quelle différence pour ce torrent de couler si agréablement dans la plaine ou de se précipiter dans des gouffres affreux. C'est pourtant son sort et sa destinée. Enfin, peu à peu, l'âme s'accoutume à la corruption. Elle la sent moins et elle lui devient naturelle, si ce n'est dans de certains moments qu'elle exhale une puanteur capable de la faire mourir si elle n'était pas immortelle. Ô pauvre torrent, n'étiez-vous pas mieux sur le haut de la montagne qu'à présent? Vous aviez quelques légères corruptions, mais à présent, quoique vous couriez avec rapidité et que rien ne vous arrête, vous passez dans des lieux si sales, si corrompus de soufre, de salpêtre et de vilenie, que vous entraînez avec vous la méchante odeur. Enfin, cette pauvre âme commence à ne plus tant sentir sa puanteur, à s'y faire, à y demeurer en repos, sans espérance d'en sortir jamais, sans pouvoir rien faire pour cela, et ainsi ses membres, sa chair, tout elle-même, s'anéantit et devient poussière. C'est alors que commence l'anéantissement, car auparavant, quelque puanteur qu'elle pût avoir, il restait encore des marques de l'humanité, un cadavre puant, un reste d'homme. Mais ici, il n'y a plus que de la cendre. L'âme ne souffre plus de la méchante odeur. Elle est naturalisée à ces choses. Elle ne voit plus rien. Et elle est comme une personne qui n'est plus et qui ne sera plus jamais. Elle ne sait ni bien ni mal. Autrefois, elle se faisait horreur. Elle n'y pense plus. Elle est dans la dernière misère sans en avoir plus d'horreur. Autrefois, elle craignait encore la communion, de peur d'infecter ou déshonorer Dieu. À présent, il lui semble qu'elle y va tout naturellement. Tout ce qui est de grâce se fait comme de nature, et il n'y a plus rien, ni peine, ni plaisir. Tout ce qu'il y a, c'est que ses cendres demeurent cendres en paix, sans espoir d'être jamais autre chose que des cendres. Lorsqu'elle sentait sa puanteur, elle connaissait encore qu'elle pourrissait. Mais ici, elle est pourrie, et rien de dehors, ni de dedans, ne la touche plus. Enfin, réduite dans le non-être, il se trouve dans ses cendres un germe d'immortalité qui se conserve sous cette cendre et qui prendra vie dans sa saison. Mais elle n'a pas cette connaissance et ne pense pas se voir jamais revivre ni ressusciter. La fidélité de l'âme en cet état consiste à se laisser ensevelir, enterrer, écraser, marcher, sans se remuer non plus qu'un mort, à souffrir sa puanteur dans sa fosse et à se laisser pourrir dans toute l'étendue de la volonté de Dieu, sans aller chercher de quoi éviter la putréfaction. Il y en a qui voudraient mettre du baume ou des senteurs pour ne point sentir la puanteur de leur corruption. Non, laissez-vous tel que vous êtes, pauvres âmes. Sentez votre puanteur. Il faut que vous la connaissiez et que vous voyiez le fond infini de corruption qui est en vous. Mettre du baume n'est autre chose que de tâcher par quelques moyens vertueux et bons de couvrir la corruption et d'en empêcher l'odeur. Oh, ne le faites pas, vous feriez tort. Dieu vous souffre bien. Pourquoi ne vous souffririez-vous pas? Si vous y regardez de près, vous verrez même que ce que vous ferez pour détourner la puanteur est un état violent pour vous, et qu'il vous est plus naturel et meilleur de la sentir. Je crois que le directeur doit donner très peu ou point du tout de secours à cette âme, principalement si son esprit est d'une force assez raisonnable, car si cela n'était pas, il faudrait la soutenir. Autrement, elle pourrait se perdre par la pénétration de la peine, car la peine de la pourriture passe jusque dans la moelle de ses os. Les autres peines sont plus extérieures et ne pénètrent pas si avant, mais pour les âmes fortes, moins elles sont secourues, soutenues et fortifiées, plus tôt sont-elles réduites en poussière. Ne leur portez donc pas compassion et laissez-les dans leur ordure apparente, qui font cependant les délices de Dieu, jusqu'à ce que, de ses cendres, renaisse une nouvelle vie. L'âme réduite au néant y doit demeurer, sans vouloir, lorsqu'elle est poussière, sortir de cet état, ni, comme autrefois, désirer de revivre. Il faut qu'elle demeure comme ce qui n'est plus, et c'est pour lors que le torrent s'abîme et se perd dans la mer pour ne se retrouver jamais en lui-même, mais pour devenir une même chose avec la mer. C'est pour lors que ce mort, sans peu à peu s'en sentir, que ses cendres se raniment et prennent une nouvelle vie. Mais cela se fait si peu à peu qu'il semble que ce soit un songe et un sommeil où l'on a bien rêvé. C'est comme un ver qui se forme de la cendre et qui prend vie peu à peu. Et c'est ce qui fait le dernier degré, qui est le commencement de la vie divine et véritablement intérieure, qui enferme des degrés sans nombre et où l'on avance toujours infiniment. De même que ce torrent peut toujours avancer dans la mer et en prendre tant plus les qualités que plus il y séjourne.